Cause Commune à Paris, 93.1 en FM et sur le bloc 9A du DAB+.
Bonjour. Je ne sais pas si on a pris dans les délais corrects l'antenne, mais nous y voilà comme un vendredi. On est vendredi, c'est le 1er mars, en plus c'est joli comme date. Et donc je suis aujourd'hui, comme peut-être vous l'avez vu annoncé sur le site de la radio, mais peut-être pas, je suis avec quatre autres personnes qui ont décidé de faire une émission à la radio Cause Commune. Et donc ce soir, on va discuter toutes les cinq de ben, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on fait cette émission, qu'est-ce que c'est comme émission. Il y a eu une première fois avec Jérôme Sorel, le premier vendredi du mois de février. Et là, ben, nous sommes toutes les cinq. Salut mesdames.
Salut.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et alors, qui de vous commence, du coup, pour raconter ben, pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on fait dans cette radio associative à Paris, dans le 18e?
Eh ben, on peut faire un tour de table. Celle que vous avez entendue là tout de suite, c'est Isabelle. Isabelle Carrère, qui fait l'émission
Un coin quelque part.
Et qui parle de quoi?
Ah ben non, on va pas commencer par parler de moi.
Pourquoi pas?
Merde, alors, un coin quelque part. Un coin quelque part, j'ai commencé en 2019. J'avais envie de parler de choses concernant le logement, l'habitat. Qu'est-ce qu'on habite? Et comment ce qu'on habite nous habite, et réciproquement. Et donc, voilà, j'ai des invités. Généralement, le format, c'est une personne que j'invite, mais parfois c'est deux. Ou parfois, je me déplace, moi, sur des lieux où les gens ont inventé des choses, des endroits, des sites pour vivre seul ou à plusieurs, ou collectivement, etc. Avec, bien sûr, toutes les luttes également sur la question du logement, le logement social, les squats, les difficultés à vivre dans une ville comme Paris, par exemple, ou ailleurs, à Lyon, Bordeaux, Toulouse et autres. Et voilà.
Et c'est puis... tous les combien de temps, cette émission? Et c'est, ça passe quand? Je veux savoir, moi.
C'est parfait. C'est le lundi, un lundi sur deux, à 14h30. Voilà, un coin quelque part.
Ah bah c'est cool, c'est bien.
Et toi, Eugénie?
Alors moi, j'ai commencé l'émission Liberté sur Parole il y a vachement de temps. C'était pas sur cette antenne-là, j'ai commencé sur... elle est née cette émission en 1999 sur Aligre FM. C'était à l'époque déjà le lundi, mais le lundi matin de 8h à 10h. Et puis j'ai glissé sur la même fréquence, mais du coup depuis quelques années maintenant, je crois que c'est en 2020. Je suis arrivée sur Cause Commune. C'est maintenant à midi, c'est la même fréquence, c'est le même nom d'émission. C'est une émission qui est consacrée, au départ, le concept, c'est de parler de liberté d'expression, à la fois d'en parler et à la fois de l'exercer, c'est-à-dire d'inventer et d'inventer aussi. On a inventé des formes aussi dans le temps. Là, j'ai un peu moins le temps de créer vraiment, de faire du reportage, etc. C'est plus des discussions avec des invités et que je choisis. Tout à l'heure, par exemple, on a enregistré une émission avec un sociologue sur le travail migrant, cette autre forme de délocalisation. À dessein, il a intitulé son livre et ses travaux depuis longtemps « Le travail migrant » et pas « Les travailleurs migrants » parce que ce qui intéresse chez les travailleurs, c'est leur force de travail et les rejeter, les invisibiliser, leur rendre la vie impossible, ne pas leur donner de papier, permet de les payer moins cher, en substance. Voilà, écoutez lundi, ce sera plus simple et plus développé. Voilà, et donc...
Mais toi, du coup, tu avais une pratique déjà, avant d'arriver ici à la radio
Cause
Commune, contrairement à moi, j'ai démarré complètement. Tu es née pour faire de la radio, on t'a dit ça? Tu avais une bonne fée au-dessus de ton berceau?
Non, j'ai toujours adoré ça, j'ai toujours voulu faire ça. J'avais pas la télé à la maison quand j'étais petite, et j'écoutais France Inter et je voulais être dans la radio. J'ai commencé, quand j'avais 18 ans, à Radio Campus Lille. Donc, j'étais étudiante, ensuite je suis partie un peu en Grèce faire Erasmus, et j'ai fait de la radio là-bas, et ensuite j'ai travaillé un peu sur Radio Fréquence Nord à l'époque, qui est une radio qui est une France bleue, hein, Nord, et toujours en étant sur campus, et puis quand je suis arrivée à Paris, j'ai rencontré Aligre, et voilà.
Et le basculement, j'allais dire, entre Aligre versus Cause Commune, ça s'est fait tranquillement?
Ça s'est fait. Je suis quittée
pour toi,
un peu.
Je veux dire, pour toi.
Ah, pour moi, oui. Ouais, pour toi, en fait, j'étais très bien accueillie à Radio Cause Commune. C'est par hasard. Je raconte. J'étais à la Fête de l'Humanité avec Stéphane, qui travaillait ici avant, ouais. Que j'ai rencontré par hasard, qui était assis à côté de moi à une table. Et bonjour, qu'est-ce que tu fais? Et il me dit, ah bah je suis sur Cause Commune. Ah, je dis, ah bah, je voulais vous contacter depuis un moment. J'aime bien ce que vous faites. Et il m'a dit, viens, je te présente Olivier. J'ai discuté avec Olivier. Je me suis dit, c'est chouette, c'est un peu là que j'ai envie d'être. Je travaillais déjà avec Gilles Brézard, qui était technicien sur Aligre et avec qui j'ai fait un petit binôme depuis longtemps.
Voilà,
et,
on le salue par ici.
Ah ouais, on le salue. Hein, on est entre filles, mais il y a quand même des gars bien. Hein. et donc, on est arrivés tous les deux. Et c'est un vrai bonheur, en fait. J'ai l'impression de retrouver l'esprit que je n'ai pas vraiment connu, parce qu'en 80, je n'étais pas très grande, mais sur lequel je m'y suis intéressée. J'ai l'impression de retrouver un petit peu l'esprit de la radio libre des années 80, avec des libres antennes, avec un peu de cette liberté.
Et puis la liberté, la grande liberté, par exemple, moi, tu vois, qui ne suis pas comme toi une journaliste, et je débarque là en 2019, et les choses sont possibles. Moi, c'est ça que je trouve ça génial, que j'adorerais que les auditeuristes, là, ce soir, comprennent, c'est qu'en fait, on n'est pas tous et toutes là, et nous toutes là, ce soir, avec des super diplômes et des affaires hyper compliquées sur du journalisme ou de la capacité technique ou je sais pas quoi, puis qu'on apprend sur le tas, et que ça, c'est vraiment génial. Marianne, toi, tu avais fait de la radio avant d'arriver ici ?
Non, j'avais jamais fait de radio. Donc moi, l'émission que j'ai sur Cause Commune s'appelle Encycliste, c'est une émission qui est consacrée à la musique. Et bon, la musique, c'est quelque chose qui est très important pour moi depuis que je suis petite. Et la radio surtout. Parce que c'est vrai que mes parents ont toujours écouté beaucoup la radio. Il y avait la radio dans toutes les pièces, salle de bain comprise. Donc c'est vraiment un truc sur lequel j'ai été... Enfin, pour moi, c'est le média le plus... Pour moi, c'est le média le plus important, parce que tout ce qu'on me proposait, j'avais l'impression que ça m'enrichissait, je sais pas comment dire, parce que j'avais l'impression de l'intellectualiser plus, peut-être aussi, et on me donnait pas les solutions tout de suite visuelles.
Voilà, il y avait pas
donc,
les images.
Donc, de toute façon,
il
fallait aller chercher dans des livres à l'époque. Après, j'ai eu Internet à 12 ans, donc ça va. Et moi, j'ai commencé par de l'architecture, et ce truc de radio et de musique était constant, revenait tout le temps, et c'était vraiment plus un truc de... plus de recherche et de d'essayer de vulgariser des trucs que j'aimais beaucoup depuis que j'étais petite, mais que je trouvais un peu trop niche, notamment le blues, le jazz, qui sont des trucs un peu trop vertigineux pour des enfants ou des ados. Et c'est des trucs qui m'intéressaient vachement. Et puis l'entrecroisement de musique générationnelle, c'est un truc qui m'intéressait beaucoup, parce que je me suis rendu compte aussi en grandissant que je commençais à écouter des trucs qui étaient ceux de mes parents, qui étaient des samples. C'est les samples, c'est un truc qui m'a fasciné. Dès que j'ai commencé à écouter de la musique, j'en parlais à mon père, c'était genre, ah, c'est super, ça. Il me disait, mais non, mais ça, c'est Joni Mitchell, c'est pas du tout Janet Jackson. Et ça m'a ouvert un champ des possibles, mais qui était absolument génial, parce que c'était genre, oh, mais tout le monde se nourrit sur 40 ans d'intervalle, c'est absolument génial. Et donc, j'ai fait Archi. Et à un moment, j'ai commencé à écrire des chroniques sur Instagram. Et on m'a proposé, enfin, Paul Citron m'a proposé, qui avait aussi une émission sur Cause Commune, qui en a aussi une parfois sur les habitats alternatifs sur la ville. Et il m'a dit, mais va voir Olivier, va en apéro, et puis propose-lui. Et je lui ai proposé, et il s'est pas posé de questions une seule seconde. Et il m'a dit, OK, tu viens samedi, on va te montrer comment ça marche. Ils m'ont appris tous les logiciels, et on m'a donné toutes les cartes pour faire tout ce que je voulais. D'aucune manière bridée dans ce que je voulais dire. Je trouvais ça super agréable, parce que ce que j'aime aussi dans Cause Commune, c'est qu'il n'y a pas de, enfin, on en parlait tout à l'heure avec Karine, mais il n'y a pas de, c'est pas du tout consensuel comme radio. Et c'est un truc qui me plaît vachement. On peut un peu dire tout ce qu'on, enfin, pas tout ce qu'on veut. Évidemment, il y a des limites, mais on n'est pas obligé de lécher les bottes de tout ce qu'on présente ou de, j'imagine, tous les invités qu'on peut avoir. Après, là, moi, c'est mon premier direct. Je n'ai jamais eu d'invité. Mais j'ai vraiment l'impression, je viens d'en parler avec Karine, mais que c'est aussi une radio où on peut nous permettre de s'exprimer et de rebondir avec les invités, les intervenants, et je trouve ça super appréciable.
On va revenir à ça, mais là, ce que je voudrais bien aussi, c'est que tu racontes, parce que toi, tu as trouvé un format qui est vraiment original par rapport aux autres émissions dans Cause Commune. Souvent, nous, on est sur du format une heure et demie. Parfois, on fait des capsules. Avec Corinne, on a fait des capsules de poésie, par exemple, sur une demi-heure, un quart d'heure. Mais toi, c'est systématique. Tu as choisi un format particulier qui est vraiment chouette, avec le x4, qui, c'est vraiment cool. Tu peux raconter comment ça t'est venu, ça?
Alors, c'est un gros format de maniaque. Déjà,
ah, okay,
parce
cool.
que Depuis que je suis petite, j'ai un peu une obsession avec le chiffre 4. Je ne sais pas pourquoi.
Le chiffre
donc,
4.
Donc 4, 8, 12, okay. 16. Et en fait, ce qui me plaisait, c'était de me dire, genre, chaque semaine, va y avoir un quart d'heure qui va constituer une heure. Et en fait, vu que moi, la manière dont je crée mes cycles, c'est ces quatre choses, elles créent un tout qui va dans la musique. Pour moi, la musique, c'est juste un amoncellement de trucs. Donc là, je me suis dit, je vais prendre quatre quartiers qui font un tout. Et ça fait un mois. Donc ça fait quelque chose de régulier, de super, je sais pas, super cartésien, quoi. Et ça m'a l'air.
OK.
Voilà. Mais oh, c'est vraiment partie d'un truc...
Et tu les fais ensemble? Tu fais, tu fais une heure que tu découpes, en fait?
Non, j'enregistre tout. Enfin, c'est un quart d'heure, un quart d'heure, un quart d'heure, un quart d'heure. Et à la fin, je fais à la fin, je dois changer mes intros et mes transitions pour que ça fasse l'émission d'une heure.
Tout.
D'accord. Mais quand même, c'est pensé sur la durée d'une heure. C'est-à-dire que quand tu découpes en lisant sur quatre fois un quart d'heure, quand même, tu l'as pensé quand même là-dessus, sur l'ensemble de ce que tu voulais en dire.
Ouais, ouais, je l'ai pensé en une heure. Ouais, ouais. Voilà.
C'est cool.
Mais c'est un travail énorme, en fait. C'est très impressionnant.
Et les références que ça permet et tout, c'est vraiment chouette, quoi.
Et ce que j'aime bien dans ton émission, c'est qu'on a, il y a plein de musiques qui sont des musiques populaires, en fait, et tu nous ramènes sur les racines, tu fais des ponts, tu fais des liens, et ça décomplexe aussi quand on écoute des trucs qu'on se dit, oh, c'est de la variétoche. Mais en fait, une fois qu'on a écouté ton émission, on se prend pour des intellos.
Non, mais on se dit, on a le droit de faire.
Ne se prend pas pour une intello.
J'aime pas du tout la musique intellectualisée, genre même les tubes de l'été, je trouve ça grotesque de les intellectualiser, parce qu'en fait, moi je suis quelqu'un de très nostalgique et c'est ce qui me plaît dans la musique. Enfin, moi, écouter la Macarena et les Tout Me Free et tout, je suis trop contente en fait. Je trouve que c'est super cool et j'ai pas du tout envie de les mettre dans un truc moins bien.
Mais ça, c'est génial.
Ça me plaît.
Ça, c'est vraiment.
Et cool. En fait, s'il y avait pas eu, je vais même pas dire, s'il y avait pas eu Aretha Franklin, ça se trouve, il y aurait pas eu à l'année de Wes ou la Macarena, j'en sais rien, mais en fait, c'est possible.
Exact, exact.
Donc, partons de ce postulat-là.
Bah, génial.
Une autre façon de voir les choses, c'est super intéressant.
Toi, Karine, ton format, il est d'une heure, généralement.
Aujourd'hui, il est d'une heure. Ouais, c'est pas plus. Parce que ça a commencé en 2017. Hein. Et là, j'étais encore courageuse. C'était deux heures en direct.
Mais quelle feignasse, maintenant.
Deux heures en direct.
Deux heures en direct et toutes les semaines.
Et là, maintenant, tu fais une heure.
Je suis en mode. Alors, c'est pas une question de paresse, c'est une question d'être débordée.
Là, c'est ce qu'on dit comme excuse.
J'aime toujours mes auditeurs. Mais c'est une heure par mois, avec trois invités en général, sur une heure. Une thématique, on peut après des fois avoir une deuxième qui a un lien avec, avec la première.
Mais alors, Vivons Sport, toi, t'es une sportive toi-même, c'est ton job, c'est quoi, ça vient d'où, t'as fait du sport?
C'est mon job, mais moi, je vais au foot depuis l'âge de 11 ans, même si ce que je disais, mes copains n'aimaient pas le foot, mais moi, oui. Et donc, j'ai toujours été dans les minorités, hein, parce qu'une fille qui allait au foot il y a 40 ans, ça n'existait pas beaucoup. Donc, j'aimais ça. Et ce que j'ai aimé, en fait, c'est le partage. C'est que j'étais une adolescente timide et que je pouvais partager avec des personnes d'autres générations et surtout d'autres classes sociales que moi. Et ça, ça m'a beaucoup plu, cette question de partage. Et j'ai continué. À 13 ans, je suis allée sur la première Coupe du monde de foot en Espagne, etc. Et donc, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est suivre le sport à la télé, aller dans les stades et regarder tout. Je ne pratique pas plus que les autres, mais maintenant, effectivement, dans mon travail, avant militante, très longtemps en militante, j'ai beaucoup milité, surtout sur la prévention des violences et des discriminations et ces questions-là. Beaucoup pour dire que le sport avait une grande place à avoir dans la société, avait un impact social très important et ne devait pas être méprisé comme il l'est encore. Et donc, c'est pour ça
que... Tu dirais que le sport est méprisé, toi, dans la société. Il n'est pas, au contraire, mis en exergue sur les...
Non. Jusqu'en 98, à la victoire de la Coupe du Monde en 98, je dirais même que le foot est encore plus méprisé que le reste. On se souvient peut-être plus, mais c'était un vrai mépris du sport. Après, à part 98, il fallait être au Stade de France, dans les loges, même si on ne connaissait pas le sport. Si, c'est autre chose. Mais non, et on en parle dans presque toutes les émissions, parce que comme j'ai des invités, des acteurs du monde du sport très variés, tout le monde est en a marre. Je pense qu'on l'a vu au moment du Covid, par exemple, la culture sait se mobiliser, la restauration, pour que Macron parle des problèmes de sport au moment de la crise sanitaire, il a fallu beaucoup, beaucoup de temps, alors que c'était une des seules autorisations qu'on avait sur l'heure pour sortir, c'était de marcher, parce que c'est hyper important pour la santé. Donc, non, on se considère, je rappelle qu'en France, c'est 0,3% du budget de l'État, que la culture, c'est 1%. Donc, quand on pleure pour être un peu plus considéré, il y a encore du boulot, quoi. Et c'est pas, je crois que, alors que chez les jeunes, ça a une place importante, mais dans les élites, pas du tout. Alors que je pense que le sport est très transversal. En tout cas, c'est ce que j'essaye de défendre sur Vivons Sport. C'est cette transversalité sur les enjeux sociétaux. On peut parler de santé, on peut parler d'éducation, on peut parler de l'armée, on peut parler d'enjeux géopolitiques. Le sport a un impact important dans tous ces domaines. Donc, en tout cas, c'est ce que je veux défendre.
Bah, tu vois, c'est rigolo parce que je pense que si tu n'aurais pas fait, toi, une émission sur Cause Commune, là, jamais de ma vie, je suis allé écouter, sinon, tes émissions, une émission sur le sport. genre, c'est vraiment, vraiment pas mon sujet. Et là, moi, ce qui m'a intéressé plutôt dans les quelques émissions que tu as faites, que j'ai écoutées, c'est, j'allais dire, les à côté. C'est-à-dire, on en parlait avec Fabiola cet après-midi, la question de la maternité et le sport, ou bien les parents et des jeunes sportifs qui vont monter en grade, et tu vois, des choses comme ça.
Non, on ne traite
j'allais dire
que
plus
ça.
Le côté sociétal du sport, parce que le sport lui-même, personnellement, moi, autant j'estime qu'effectivement, l'activité physique, on pourrait dire qu'elle est importante et que le sport, pour moi, non. Mais bon, voilà, ça sera un autre débat que celui qu'on a ce soir.
Non, mais moi, ce qui m'importe, c'est juste de dire que le sport a un impact très important et qui peut être positif. Il l'est souvent. Je déteste qu'on parle des valeurs du sport, ça m'insupporte. Parce que...
Plus haut, plus vite, plus fort.
Mais on peut, ça. J'ai rien contre le haut niveau, puisque je vais le voir. Mais je rappelle toujours que Mussolini et Hitler, eux, ont su très tôt que le sport avait un impact important. Et donc, on ne peut pas dire que c'est des valeurs, mais que je préfère que ça soit les républicains et les gens qui veulent justement travailler sur les questions de liberté. Mmh.
Alors, quand tu parles de républicains, c'est les gens qui défendent les valeurs de la République, je précise. Parce qu'on
oui, c'est ça, c'est pas LR.
Non, c'est pas LR. Qu'on soit clair, je parlais bien.
Je fais gaffe.
Je suis d'accord, on est bien sur cause commune.
Non, je ne parlais que des personnes qui défendent, et j'étais en train de dire liberté, égalité, fraternité, inclusion, accueil des migrants, tout ça, c'est ce dont on parle dans Vivons Sport.
Moi aussi, j'ai trouvé très intéressant quand j'ai écouté ton émission, je crois que c'était en janvier maintenant.
Oui, comme elle est mensuelle.
Avec oui, entraîneur, la relation entraîneur-parent sportif et au niveau enfant. Ouais, et j'ai vécu pendant 10 ans, le père de ma fille, il avait été vice-champion du tennis de table en Roumanie.
Super, donc j'ai fait du ping-pong et j'ai
voilà, donc j'ai toute une approche aussi par rapport au fait qu'il était étranger quand il était venu en France pour jouer dans un club, les promesses non tenues des clubs, enfin il y a tout un aspect qui m'a touché.
J'espère que ça progresse.
voilà, directement. Et puis le fait que c'était, à l'époque, c'était l'homme le plus cultivé que j'avais rencontré, je ne pensais pas non plus. Il faisait du sport, on avait effectivement ce que
ouais,
tu dis,
alors,
on avait
voilà,
une
ce
image,
mépris, voilà.
Ce mépris.
Et encore maintenant, quand des sportifs de haut niveau s'expriment, on ne se rend pas compte, hein, quand c'est un Tony Parker, c'est un grand chef d'entreprise, qu'ils peuvent avoir des choses à dire, et ça, voilà. Il y a vraiment, on a tous un complexe par rapport à ça parce qu'on trouve qu'on est méprisé, qu'on soit acteur juste pour défendre l'impact comme moi ou un sportif de haut niveau qui ont aussi des choses à dire et des compétences. Alors, on travaille beaucoup maintenant sur ces questions de compétences pour la reconversion notamment.
Ok, avant qu'on passe à ton émission, Fabien, je propose un petit break avec une musique. On met laquelle, vous voulez quoi?
Et celle de Fabiola, non?
Ben oui, comme ça, après, elle introduira son émission.
Ok, allez, c'est parti. Alors, Fabiola, tu as choisi The Smile, Skirting on the Surface. Yeah, c'est comme ça qu'on dit?
Yeah.
Yeah. Thank you. Continue normalement, mais là, j'ai coupé. Fabiola, pourquoi t'as choisi ce morceau-là, toi? T'as une idée?
Parce que c'est Thom Yorke. Oui, parce que ça parle de la fragilité de la vie. Et parce que j'ai toujours cette impression qu'on ne fait qu'effleurer la surface. Voilà, et que en plus, ça fait partie de... Enfin, c'était une des premières chansons que j'ai proposées pour ma première émission, Des formes utiles. Avec Martine Audet, qui m'a prêté le titre de son dernier recueil de poèmes. C'est une poète québécoise.
Des formes utiles, alors vas-y, raconte-nous des formes utiles, parce que je trouve ça très beau, cette émission, avec cette question que tu poses systématiquement aux personnes que tu invites avec...
Les formes utiles?
Quelles sont les formes utiles, là, maintenant? Oui.
C'est des outils. Voilà, pour moi, c'est des outils, comme des exercices à penser, à travers l'art. À travers l'art, parce que pour moi, c'est le domaine qui continue de poser des questions. Voilà, donc qui apporte peut-être pas vraiment de réponses, mais moi, j'aime beaucoup les questions. Voilà. Et à travers les invités, qui ont des pratiques souvent peut-être un peu... singulière. Voilà. J'essaie de chercher, donc à l'aide, parce que je suis, à propos de effleurer la surface, je sais qu'on fait que effleurer la surface, mais j'essaie malgré tout.
Qu'à force d'effleurer, on peut faire des traces.
voilà. Donc j'essaie de voir leur intention, de chercher presque la généalogie de cette intention. Comment on arrive à faire ce qu'on fait, pourquoi on le fait et peut-être une question plus ancienne qui me poursuit, je ne sais pas, de l'adolescence, un peu, ça sonne un peu dramatique, mais c'était pourquoi vit-on? Voilà, pourquoi vit-on? Qu'est-ce qui fait que, malgré tout, on sait qu'on est mortel, on sait que tout ça, ça a une fin, et pourtant on continue à faire des choses. Donc j'aime gratter cette surface, enfin j'aime voir qu'est-ce qui se passe.
Et comment tu choisis tes invités alors?
Pour l'instant, ce sont des personnes que je connais. Je n'ai jamais fait encore interviews, enfin des entretiens avec des personnes que je ne connais pas. Et après, j'imagine que ça va se diffuser comme ça, comme une pieuvre, à partir de là, ça va comme un livre. On découvre d'autres choses qui nous amènent vers d'autres livres. Pour l'instant, j'ai commencé avec Martine Audet en mois de juin, parce qu'il y avait le marché de la poésie, et il y avait son dernier recueil. J'avais envie de parler de ça. Et puis, c'est Isabelle qui a proposé. Il y avait aussi l'émission, il y avait aussi l'exposition d'un ami architecte. Et ça, c'était ma première émission, mais c'était une carte blanche dans un coin quelque part. Et puis, elle m'a dit, pourquoi tu ne trouveras pas ton propre format et ta propre émission. Donc, j'ai réfléchi, j'ai invité Martine. Et c'était une fois par mois, jusqu'à janvier... mais en fait, je découvre le format, je découvre ce que j'ai envie de faire, je découvre petit à petit. Donc, je découvre tout ça. Je suis en perpétuel, voilà, je suis en mouvement. Je découvre avec mes invités, il y a des choses qui s'ouvrent à partir de chacun. C'est comme comme des pétales qui se...
Et ton rapport, avant de faire la radio, avec la poésie, avec le monde de l'art, c'est quelque chose qui était au cœur de ta vie ou c'était quelque chose qui était plus diffus et que tu as concrétisé ici?
En fait, depuis enfant, je baigne dans ce milieu, disons. Je suis née en Roumanie. Ma mère avait des amis dans les milieux de l'art. Donc, à la maison, c'était une porte ouverte. Ça, c'était... Après, quand je suis venue... mon parcours, il est un peu diffus. J'ai passé une frontière encore du temps de Ceausescu, illégalement. Je me suis retrouvée en prison. J'ai fait des camps de
rétention,
de tri en Yougoslavie, etc. J'ai vécu en Hongrie, j'ai vécu en Allemagne et finalement en France. Je suis en France depuis 1997. Et l'art, c'était... Bon, il est présent dans ma vie, d'une manière ou d'une autre. J'ai fait une école d'art, mais une école d'art alternative, où on parlait surtout du fait qu'il y a trop d'objets d'art.
Ah oui?
Voilà. Donc, c'est ce qui m'intéresse. C'est une sorte d'écologie politique. Comment faire pour avoir un peu moins d'objets, même si c'est des objets d'art. Voilà. Mm-hmm. Donc, mon premier invité, c'était un ancien professeur. Voilà, c'est lui qui a ce concept de soustraction. C'est ce qui m'intéresse. Donc, j'essaie d'inviter des personnes, mais en fait, ce qui...
Donc, la forme utile pour toi, c'est le vide, c'est ça? C'est faire le vide?
Non, en fait, ce que je me suis rendu compte dans cette école, que j'aurais bien aimé, on a eu toutes sortes d'invités qui parlaient de soustraction, que ce soit des neurologues ou des chamans ou des historiens de l'art, etc. Et on s'était dit, parce que c'était très difficile pour mes collègues, c'était très difficile de travailler avec ça, avec cette idée de soustraction. Mais ils étaient intéressés, c'est pour ça qu'ils étaient là. Et alors, ils se sont dit, je me suis dit, moi, si je faisais une école d'art, j'inviterais des gens qui ont des avis aussi opposés, donc qui ont des pratiques, certaines soustractives, et d'autres qui ont continué à faire les pratiques, ce qu'on appelle classiques, traditionnelles, etc., qui continuent de peindre. Donc, j'aimerais savoir pourquoi il y a certains qui choisissent de faire moins, pourquoi il y a certains qui... Ils choisissent pas de faire plus, mais de faire quand même.
Et attends, j'ai pas compris. En fait, juste la pratique soustractive, c'est quoi? Parce que quand on parle de création, on est en fait un peu toujours, en tout cas dans notre imaginaire, le plus...
Avec du plus.
On est sur l'addition, sur le fait de créer quelque chose, sur le fait de quelque chose qui va émerger. Et alors, créer de la soustraction, ce serait quoi?
Jean-Baptiste Farkas, mon premier invité du mois de septembre.
Oui. Ben voilà, il faut écouter.
Il faut écouter. Mais, voilà. Mais tu nous donnes envie. Hein.
Ah, tu nous donnes envie, vraiment. Hein.
Bah, tous,
lui propose des services. Voilà. Lui propose des services.
Oui. Des services pour pouvoir arriver justement à cette question de la soustraction. C'est vraiment génial.
Ah ouais?
Chouette. Oui, oui, c'est vraiment intéressant.
Il peut venir faire le ménage chez moi?
Alors, chez moi aussi.
Oui, il peut faire le ménage, il peut réduire des espaces.
Hein. Attention, parce que oui, effectivement, il a donné des exemples de ménage, mais de grands ménages. Je ne sais pas ce auquel tu penses, hein, je pense. C'est beaucoup plus radical que ça.
Ah bon? Déjà, moi, je me déplace avec une valise juste pour une journée. Donc...
Mais c'est chouette parce que
ce que
décrit Fabiola, c'est vraiment, voilà, c'est ça, c'est comme une ligne de recherche à la fois personnelle dans laquelle elle nous emmène. Et les outils dont tu parles, je trouve ça joli que tu parles d'outils quand tu dis la question que tu poses aux gens mais ça serait quoi, c'est quoi les formes utiles? Est-ce qu'il en reste encore ou faut-il continuer, etc. Et je trouve
elles
vraiment...
sont en mouvement parce que
c'est le
verbe de Martine Audet, en fait, c'était des formes utiles rejouent sans cesse.
Oui.
En fait, est-ce que, par exemple, ça peut être un artiste qui a fait une œuvre d'art et en fait, plus il la pense, plus il la menuise, donc il la soustrait, donc il enlève des choses de cette œuvre d'art.
Ça a commencé dans les années 60, avec le minimalisme, avec ceux qui peignaient. Le tableau se confond avec le mur sur lequel il était peint, ou alors avec un artiste qui aujourd'hui peut te proposer une discussion avec lui. de 3 minutes et après on te donne juste un papier où on te dit tu as eu cette discussion avec Lawrence Weiner.
Voilà. Et c'est ça l'œuvre d'art.
Et c'est aussi le chef-d'œuvre inconnu qu'on peint et qu'on peint, on compare, et puis à la fin il disparaît.
Il disparaît. Mmh. Voilà.
Et c'est la question de la responsabilité. Et là je trouve ça intéressant parce que ça, s'il y a un point commun peut-être dans toutes nos émissions, je trouve qu'il y a un truc là-dessus sur où est-ce qu'on la met la responsabilité. Et toi, quand tu la poses, Fabiola, à tes invités, elle prend parfois la forme de est-ce que l'artiste a une responsabilité dans ce qu'il fait ou pas, ou bien voilà. Et du coup, bah, de la même manière, Karine, toi tu poses des questions aussi sur la responsabilité, tu en parlais, Eugénie, évidemment, tu en parles tout le temps. C'est une question qui, même si elle n'est pas formulée comme ça, elle revient également en permanence dans ce que tu provoques, non, comme
oui,
thématique.
Ça, ça me fait penser à quelque chose. Oui. Peut-être c'est bien de le dire ici. Oui. Ça fait donc 25 ans que je fais de la radio, plus même. Mmh. Et oui, bien plus. En tout cas, cette émission. Et pour la première fois, avec une émission à Cause Commune, où j'avais donné la parole à une infirmière en maison de retraite, qui racontait son quotidien. Alors, c'est très terre-à-terre, hein, et qui racontait comment sa direction l'abrimait. Pour la première fois, j'ai reçu une poursuite en diffamation. Ça ne m'était jamais arrivé de la part des tenanciers de la maison de retraite. Hein. Je ne sais pas où en est le procès, ça va peut-être arriver un de ces jours. Ça a été un choc qu'on attaque une radio libre à travers moi, bien sûr. Elle aussi, hein, la dame est poursuivie. Ils ont poursuivi aussi des gens de Fréquence Paris Pluriel qui l'avaient reçue. Donc je crois qu'il y a aussi c'est important. Je crois que ce que je voulais dire, c'est que la liberté d'expression, ce qu'on fait, ça a plus d'importance qu'on croit. C'est-à-dire que ça dérange peut-être des gens. On n'avait pas dit d'horreur. Hein, c'était juste elle racontait son quotidien et donc ils ont trouvé des mots qui auraient pu faire une diffamation. Sauf que je pense que la réalité était bien pire qu'on ne l'a décrite. Mais bon, ces gens-là ont une maison de retraite où ils font des sous, où ils font payer 3 000 euros aux gens, et je pense qu'ils n'avaient pas envie de perdre de l'argent et qu'ils ont cru qu'on pouvait leur en faire perdre. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. C'était la première fois, donc en 25 ans. Voilà, c'est aussi la première fois, là, tout récemment, que j'ai été attaquée, enfin, que le journal où je travaille, L'Humanité, a été attaqué pour un de mes articles. Je reportais simplement qu'un juge de la Cour nationale du droit d'asile de Marseille avait été démis de ses fonctions en étant suspecté, enfin suspecté d'être, pas suspecté, il est effectivement d'extrême droite, mais suspecté de que ses idées portent préjudice aux gens dont il était censé juger le parcours, simplement pour avoir écrit ça. Et donc moi, enfin mon article, comme celui de 20 minutes qui en parlait, comme celui des jours, comme celui de Mediapart, comme celui de je sais pas qui encore, enfin, on est plein à être attaqué. Donc je pense que c'est un moment aussi important où de plus en plus la parole avec ces fameuses procédures Bayon est attaquée, en fait la parole libre est attaquée. Et voilà, c'est comme l'amour ou la liberté, ça fait beaucoup de bruit quand ça part. Et c'est vrai que là on a l'impression qu'il se passe quelque chose dans cette période, et du coup je pense qu'il faut continuer. Voilà, c'est ce que je voulais dire aussi.
Oui, il faut continuer à la fois dans certains combats, en tout cas ceux qu'on se choisit, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir tous les combats, mais en tout cas ceux qu'on se choisit. Et du coup c'est intéressant parce que ça nous pose la question à nous cinq là, mais aux autres aussi, de la responsabilité, y compris quand on fait de la radio, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on promeut, qu'est-ce qu'on met en avant, de quoi on parle. Et c'est à la fois, et également, moi je le vois dans un coin quelque part régulièrement, de comment ne pas mettre en danger les personnes dont je parle ou les personnes avec qui je parle. C'est-à-dire que des gens qui ont ouvert des squats, ben non, peut-être en fait, finalement, je ne vais pas faire l'émission de radio que je pensais faire parce que ce n'est pas une bonne idée là pour eux maintenant. Versus, après coup, ben oui, on peut en parler, mais en parler ailleurs complètement, puis on fait comme si c'était de quelqu'un d'autre dont il était question parce que, tu vois, des choses comme ça. Mm-hmm. Et du coup, je trouve ça intéressant de se poser ces questions-là dans la sphère dans laquelle
moi,
nous sommes
pense,
là.
Je pense que l'émission où j'ai eu le plus de stress, en fait, justement, je voulais être dans le bon ton, il dit, et laisser protéger les personnes. C'est une émission que j'ai faite sur les violences sexuelles dans le sport, avant qu'on en parle beaucoup, hein, puisqu'on essaye toujours d'être en avance sur les thématiques. Quand je dis en avance, ça fait 30 ans qu'on milite sur ces questions.
Oui, mais j'allais dire, je ne sais pas qui.
Non, ça fait 30 ans, donc on était en retard sur... on savait depuis longtemps que ça se faisait, mais il n'y avait pas encore tout ce qu'on fait maintenant. Et j'avais deux victimes et j'avais vraiment envie de les protéger. Et je pense que l'émission s'est bien passée pour eux, mais c'était vraiment l'émission où j'étais le plus stressée parce que je voulais vraiment que ça se passe bien, qu'on puisse dire les choses. Mais elles m'ont dit, l'un d'entre eux m'avait dit des choses extrêmement cash, on ne pouvait même pas aller jusque-là. Mmh. Je sais qu'Olivier, à un moment donné, a dit l'émission ne la mettra qu'à 21h, ce qu'on a fait, mais après on s'est rendu compte que non, il fallait aussi qu'elle soit écoutée à toute heure parce qu'il fallait faire avancer le débat, quoi. Mais ça me fait penser à ce que tu dis. Mmh. Il faut savoir protéger aussi les personnes qui sont victimes, mais pouvoir les accompagner dans le combat.
Mais en tant qu'animateur ou animatrice, t'as un poids dans la manière dont la chose se libère aussi.
Bien sûr.
Qui est super important.
Que j'avais énormément préparé avant. Et il y avait des choses où je me disais, là, ça peut, on ne va pas y aller. Et puis d'autres où...
Puis après, il faut aussi...
On savait qu'ils s'exprimaient.
Tu peux te dire aussi, ça se trouve, les invités, au dernier moment, ils vont te dire genre, ah non, non, non.
Finalement, non.
Oui, possible.
Mais ça, il faut lui laisser la possibilité de le faire.
Non, mais bien sûr, mais c'est aussi un truc à anticiper, à respecter aussi, évidemment.
Tout à fait. D'ailleurs, moi, quand je prépare, je pose toujours deux questions. Est-ce qu'il y a un message que vous voulez absolument passer? Et est-ce qu'il y a quelque chose dont vous ne voulez pas parler? Parce qu'on peut l'aborder autrement, je dirais.
Moi, c'est à la fin des émissions que je dis. En fait, est-ce que finalement vous avez dit un truc que vous voudriez ne pas avoir dit, puis je vais le couper au montage.
Ouais, mais t'as raison.
Ben oui, parce que c'est pas. Parfois, tu es sur la lancée, tu sais, peut-être dans un rapport de confiance, puis t'oublies, la personne elle oublie qu'il y a le micro en fait derrière, puis qu'il y a les auditeuristes qui vont entendre les choses. Mm-hmm. Marianne, toi, tu penses que tu vas recevoir des gens un jour ou dans une autre émission,
oui,
un autre format?
Pense,
tu penses à ça aussi?
Oui.
Ouais.
J'en tremble.
J'en trouve d'avance.
Non, mais c'est un choix de ne pas en avoir ou
Non, c'est pas un choix. Hein. C'est vrai que j'ai mon petit confort personnel.
C'est pas forcément un confort. Hein, moi, j'admire.
Mais bon, après, c'est vrai que puisque je ne fais jamais en direct, en fait, c'est vrai que je pourrais tout à fait avoir un invité ou une invitée parce que de toute façon, je pourrais, enfin, pas en faire ce que j'en veux, mais c'est juste, j'arriverai à adapter. Mais non, en fait, bon, déjà, j'ai un peu peur que personne veuille venir.
Et, mais alors, détrompe-toi.
Mais non, mais c'est vrai. Ouais, c'est des trucs classiques, quoi.
Ouais,
mais,
bon.
Et puis aussi, la capacité de rebond aussi, mais encore une fois, vu que c'est pas en direct, j'imagine que c'est plus facile. Mais non, bah oui, c'est une conversation à avoir qui sera publique ensuite, donc c'est beaucoup de préparation. Et c'est une préparation autre que celle que je connais maintenant. Parce que là, je fais surtout de la recherche de Red Bibliothèque quand je fais mes émissions. Je ne suis pas du tout dans un truc spontané, malgré le ton que j'emploie. C'est hyper construit. Donc, je trouve que c'est un autre travail encore.
Mais voilà. En même temps, ce que tu fais, ça nous va. Hein.
Ah oui, on ne voulait pas dire. On voudrait le faire en plus, une autre. C'était pas à la place de...
Mais c'est vrai, quand je disais on sent des intellos, c'est qu'on sent intelligent quand on écoute tes émissions. Oh, voilà, c'est ça, c'est-à-dire que ça fait réfléchir. C'est chouette, quoi.
Merci.
On va passer à la musique que tu as choisie, Marianne.
Ouais.
Tu nous la présentes.
C'est une femme qui s'appelle Sister Rosetta Sorp. Sisters parce qu'elle faisait du gospel. Enfin, elle a commencé par le gospel. Elle chantait beaucoup avec ses parents et elle a commencé la guitare électrique, genre, je sais pas, à 10 ans, 11 ans. Et c'est quelqu'un qui est né dans les années 20. Elle est décédée, je crois, dans les années 70. Enfin, c'est celle qu'on surnomme la marraine du rock'n'roll. Parce que déjà, à cette époque-là, il n'y avait pas de femme qui faisait de la guitare électrique. Donc déjà, c'est de la guitare électrique. Et en fait, ce morceau, je l'ai découvert dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. genre
quoi,
13 ou 14 ans. Ce film, à 13 ou 14 ans, il m'a bouleversée. Enfin, je l'ai adoré.
Okay.
Et en fait, c'est la... Je ne sais pas si vous vous rappelez du tout, mais il y a un monsieur Dufayel qui est le monsieur qui regarde toutes les cassettes vidéo dans sa chambre.
Oui.
Elle lui envoie des vidéos, genre Tour de France avec le cheval et tout. Et à un moment, il y a une vidéo d'une dame qui est en train de jouer de la guitare électrique avec un chœur de gospel en noir et blanc. Et c'est elle.
Oh yeah.
Et du coup, je l'adore. Donc, c'est Sister Rosetta Sarp et ça s'appelle Up Above My Head, je crois.
Above My Head.
Voilà.
Gospel, yeah. C'est parti, merci.
Up above my head, I hear music in the air. Up above my head, there is music in the air. Up above my head, music in the air. And I really do believe, really do believe, joy somewhere. Music everywhere, all in my home, music in the air.
air, music in the air, up above my head. There is music in the air, up above my head. There is music in the air. You know, I really do believe, I really do believe joy somewhere. All in my home, music everywhere. All in my home, singing right there. Up above my head, there is music in the air. You know, I really do believe, I really do believe joy is a fire. Oh, yes, oh, yes. Everywhere up above my head, and don't you know music in the air? Up above my head, music in the air.
Voilà, yeah. Sister Rosetta Sarp, je vous conseille d'aller voir la vidéo, elle est assez ouf. Et j'ai choisi ce morceau particulièrement déjà parce que c'est une femme et que ce soir on est entre femmes. Et que c'est, en fait, c'était un, ça a été le cycle que j'ai préféré écrire parce que c'est celui où j'ai découvert le plus de choses. C'est un cycle qui était à la base consacré aux Rolling Stones, enfin qui est consacré aux Rolling Stones. Et en fait, dans tous les bluesmen, enfin dans toutes les personnes qui ont influencé les Rolling Stones, on ne parle que des hommes. Alors que, bah, en fait, elle, elle est déjà considérée comme maître de beaucoup de bluesmen qui ont influencé les Rolling Stones. Donc c'est vraiment, elle, on l'a un peu oubliée. Et bon, ça fait chier, parce que c'est vraiment super et qu'elle joue super bien de la guitare et qu'elle chante bien et qu'elle est, elle a déjà mélangé deux genres. Et je trouve ça absolument génial. Et en fait, c'est le cycle aussi qui m'avait permis de comprendre à quel point il y avait des croisements dans la musique, parce que ça m'avait permis de parler des Stones, qui sont anglais, de The Verve, je ne sais pas si vous voyez, c'est un groupe des années 90 anglais que j'écoutais ado, d'un gros bluesman aussi qui s'appelle Mississippi, Fred McDowell, qui est quelqu'un qui a influencé Bob Dylan aussi. Ça m'avait permis de parler de la première électrification de Bob Dylan, du coup, ça m'avait ramené à elle aussi, enfin, c'était mes... un enchevêtrement qui m'avait fasciné. Et je m'étais dit, c'est ça la musique, donc c'est de ça dont j'ai envie de parler.
Mais c'est ça qui est génial dans cette émission que tu fais, c'est-à-dire que c'est tous ces liens-là. Quand Eugénie disait, on se sent intelligent, mais c'est aussi par ça qu'on se sent intelligent. C'est-à-dire, soudainement, on comprend des trucs, puis d'où ça vient, puis comment c'est passé par là, par là. Et non seulement l'intragénérationnel, comme tu dis, l'intergénérationnel, pardon, mais également les aides, les soutiens, les apports des uns, des unes, des autres. Et ça, c'est vrai.
Et moi, j'ai appris un mot, je ne connaissais pas ce mot, un cycli.
Voilà. Ah ben voilà. Vas-y, dis, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi?
Ça veut dire faire des ronds dans l'eau.
Ouais, voilà. Et ben voilà, faire des ronds dans l'eau.
Et tu sais, j'avais eu un physique. J'ai eu un invité qui avait dit qu'il trouverait, qu'il voudrait finir, qu'il se verrait très bien finir sa vie en faisant des ronds dans l'eau, qu'il trouverait ça une activité tout à fait honorable.
Il y a pas une chanson des années 60 où il est question de faire des ronds dans l'eau?
Oui, exact, oui.
Mais je sais plus.
Si c'est possible.
Ouais, je sais plus.
Cherchons.
Voilà, on va apprendre des trucs.
Elle a été reprise par Biolay avec je ne sais plus qui récemment.
Mais quand on fait du plongeon, on fait des ronds dans l'eau.
Toujours, tu nous ramènes au sport, toi.
Je peux vous ramener à tout.
Non, mais c'est un corps qui tombe.
Ça doit être à pic.
À pic. J'ai jamais su plonger. Qui fait des cercles concentriques.
C'est l'histoire d'un corps qui tombe, c'est ça.
La chute.
C'est la chute. La loi de...
Oh, c'est Françoise Hardy.
Mais voilà,
ah, bon, c'est Hardy.
Et ça s'appelle Des ronds dans l'eau.
Et ouais.
Ah bah alors.
Elle est vraiment formidable, cette Françoise.
Oui. Définitivement.
Tu avais une émission sur elle aussi, non?
Ouais, j'ai fait une émission. Voilà.
Ah, mais tu vois, tu as quelque chose à rajouter.
Ouais, très, très admirative de la personne, je ne sais pas.
Voilà, non, c'est ce que
je
l'entends.
Je l'ai entendu sortir un peu des trucs l'autre jour. J'étais ah, je ne sais pas trop.
Ouais.
Mais en tout cas, sa musique et ce qu'elle a représenté dans les années 60, c'est quelque chose qui me fascine
aussi,
beaucoup.
Elle écrit magnifiquement. Ouais. Elle a une plume, cette nana. Mais
alors, donc, du coup, vous êtes parmi celles, les personnes qui disent on peut séparer l'auteur de
sa mère. Seulement si c'est une femme. Françoise Hardy, je préfère séparer, oui.
Seulement si c'est une femme, on peut séparer.
Françoise Hardy, elle a bien des personnes.
Non, non. Bon, alors là, ça va être... Ouais, d'accord, ok. Bon, je pense qu'on va se faire huer, là.
Mais non.
Non, ça va être un débat compliqué.
Ça va être un débat très compliqué.
On peut faire plusieurs émissions, là-dessus.
Ailleurs... oui, on pourrait faire plusieurs émissions. Bon, ok, du coup, what else?
On a écouté toutes nos musiques.
Mais non,
on n'a pas écouté celle de Karine. On n'a pas écouté celle de Karine. Moi, je vais écouter la musique de Madame Sport.
Hein, on va devoir refaire une émission pour écouter toutes les chansons.
Ça peut être, mais vous voulez qu'on batte une autre musique maintenant? Non. Oui, vous voulez pas dire
un truc? Ah, je sais pas. Il faut dire des trucs.
Mais... Bon, on a un peu parlé de chaque émission, là, en fait. On a répondu au contrat qu'on avait, là, non?
Ouais.
Ils nous ont dit, voilà, il faut faire un truc pour que l'on ait envie de... Je pense que là, les gens, ils ont envie.
Voilà, là, c'est clair que toutes les émissions...
Déjà, moi, j'ai envie d'en écouter plein chez vous, là.
Ah, bah voilà, moi, les tiennes. Alors, je me disais, oh, le sport, bon. Et en fait, je me suis rendu compte que, voilà, c'est toute la société. Tu nous parles exactement de tous les sujets qui m'intéressent. Les discriminations, l'inclusion, le côté sanitaire du sport.
Ouais. Beaucoup l'égalité femmes-hommes dont on parle aujourd'hui.
Voilà.
Les mixités.
Bon, alors du coup, moi, je vais faire une question provoque pour Karine, parce que quand même, je peux pas ne pas la faire, là.
Vas-y.
Parce que donc, j'ai écouté l'émission que tu as faite sur les JO, mais qui était d'un certain point de vue. Qu'est-ce que tu vas faire pendant cet été, là?
Je sais pas de quelle émission tu parles, parce que j'en parle beaucoup.
Ouais. J'ai écouté la dernière.
Moi, je ne parle pas d'ailleurs des JO, je parle des JOP. Et c'est très important pour moi parce qu'il y a le match aller, ce sont les Jeux Olympiques, et il y a le match retour, ce sont les Jeux Paralympiques, et l'impact sociétal est encore plus important sur les Jeux Paralympiques. Donc, on ne voudra pas oublier. Donc, j'ai une accréditation pour Paris pour Cause Commune, hein, pour pouvoir faire des émissions pendant les
Jeux. D'accord, donc tu vas en faire pendant les Jeux. Ok.
Déjà, on ira peut-être à Rosa Bonheur, à la Maison de la Diversité, qui est tenue par des personnes qui militent sur les droits LGBT dans le sport. Donc, je pense qu'on va essayer de faire une émission là-bas. Mmh. En tout cas, ça se discute. Et puis, faire des émissions un peu décalées. Mais surtout, ce qui est important pour Vivons Sport, c'est de parler depuis un moment, d'être vigilant sur ce qui va se passer sur les enjeux sociétaux et sur la suite, ce qu'on appelle l'héritage immatériel des Jeux, puisque c'est là-dessus que Paris a gagné le fait de les organiser. Et donc, à nous d'être vigilants là-dessus, et c'est à peu près à chaque émission, on parle de ça. Dans celle qui passe demain à 9h, on en parlera encore, c'est sur les jeunes et le sport. Je fais la pub de demain. Et la question, c'est est-ce qu'on aura l'héritage que l'on souhaite en termes, là, plus pour les jeunes, sur toutes les questions qui les concernent. Et je vous parlais des questions budgétaires et autres, on est tous inquiets. Donc, on va continuer à être vigilants là-dessus pour qu'on ne rogne pas sur les budgets qui peuvent apporter de l'impact social grâce au sport. Voilà.
Okay.
Donc, bon, en fait, c'est là-dessus que je vais être vigilante.
Piège, mais je vais pas du tout.
Et je vais y aller aussi voir des épreuves, hein, parce que je ne suis pas une anti. Je veux tout voir. Je veux tout. Et aller dans les fan zones et je veux vivre les Jeux.
Et toi, Eugénie, tu choisis comment tes invités?
Alors, c'est un peu le hasard. C'est un petit peu. C'est vraiment des gens qui.
C'est l'actualité. C'est...
Alors, je fais régulièrement une émission en partenariat avec la CIMAD sur les droits des étrangers. Donc, évidemment, la loi immigration dont on a beaucoup parlé a été au cœur de plein d'émissions. C'est vrai que c'est un thème qui m'intéresse. Donc, c'est souvent en lien avec les droits des étrangers, avec l'immigration,
etc. Et il y a une raison pour que ce sujet t'intéresse particulièrement ou pourquoi les immigrés?
Pourquoi les gens... Bah parce que c'est des gens qui sont discriminés, c'est des gens qui... parce que quand on regarde le traitement qui est fait aujourd'hui aux étrangers, on voit que c'est les principes républicains qui sont mis en jeu. En fait, c'est insupportable pour moi de voir qu'on renie le droit du sol ou qu'on annonce qu'on va peut-être le renier. Enfin, c'est toujours beaucoup d'effets d'annonce, mais c'est des choses qui me semblent pas correspondre du tout avec ce qu'on m'a appris à l'école, avec liberté, égalité, fraternité.
Mais tu sais, me le dit souvent, tu as des enfants, ils sont français, c'est le droit du sol. Mais non, ce n'est pas le droit du sol.
Comment ça
c'est Mes enfants sont nés en France, mais ils sont nés des parents étrangers, ils ne sont pas français.
Et ils le seront à 18 ans s'ils le veulent,
c'est ça.
Voilà, mais ils ne sont pas, parce que souvent on pense, puisqu'ils sont nés en France, que le droit du sol signifie t'es né en France, t'es français. Ben non, tu peux l'être.
C'est une question
de droit.
Si
tu restes en France, si tu as 5 ans de scolarité entre tel âge et tel âge, donc il y a tout un...
Bien sûr, il y a déjà beaucoup de... Voilà, c'est pas une évidence. Mais après, quand on commence à vouloir affirmer qu'il faut que les enfants le demandent, est-ce qu'à 18 ans, j'aurais demandé à être je ne sais quoi?
Mais non, on peut le dire à 13 ans si les parents sont d'accord, à 16 ans si on le souhaite. Moi, j'ai un fils, sa première, il a fait, il est arrivé en France à 9 ans. À 18 ans, il a demandé, moi, j'avais une carte de résident de 10 ans. Et lui, il a eu une carte de séjour d'un an. Et ils nous ont dit, il n'y avait pas, je regardais le droit des étrangers.com, .fr, tout ça. Il n'y avait pas ça. Ils ont dit, ah, on a reçu une circulaire. Non, il a eu une carte de un an. Pourtant, il avait fait toute sa scolarité à partir de 9 ans jusqu'à 18 ans en France.
Oui,
il a
vécu
comme une injustice. Maintenant, aujourd'hui, il n'a pas de carte. Il n'a aucune envie. Il a son passeport roumain. Je pense que celui est resté quelque part.
Bien sûr, mais c'est ça, c'est cette manière de gâcher les gens, en fait, de les discriminer, de les dégoûter, de leur rendre la vie impossible, comme ça a été dit. Moi, je trouve ça insupportable et je trouve que ça, c'est quelque chose qui devrait nous toucher tous, qu'on soit étranger ou pas, parce que c'est notre société. Moi, j'ai pas envie de vivre dans une société où il y a des gens qui sont moins bien payés que d'autres, moins bien accueillis que d'autres, en raison de leur couleur de peau. Donc on peut voir la différence d'accueil et on a été capable d'accueillir et c'est très juste de l'avoir fait des gens qui venaient d'Ukraine en fuyant la guerre et on n'est pas capable d'accueillir d'autres gens qui fuient d'autres choses,
d'autres guerres,
tout simplement parce qu'ils ont une couleur de peau un peu plus foncée. C'est insupportable. Enfin, c'est pas la
France. Moi, je suis complètement d'accord, mais je trouve que justement, ça ne peut être que par la pédagogie qu'on peut gagner ce combat-là, parce que je pense que c'est ça qu'on a raté, c'est la pédagogie. Alors, quand je dis « on », parce que moi, j'ai longtemps milité sur ces questions et on continue aussi, mais je crois que de parler de ça dans nos émissions, quelles qu'elles soient, et tu le fais beaucoup, je le fais de temps en temps, vous le faites certainement, mais il n'y a que la pédagogie qui peut aider les personnes à comprendre que c'est évident qu'il faut aller vers ça. Quoi.
Et puis surtout, peut-être...
Surtout, arrêter de se replier. Quoi.
L'idée, c'est aussi de donner la parole à des gens qui sont d'origine étrangère ou que tout simplement que ces gens existent et qu'ils n'existent pas simplement dans le fantasme qu'on a des hommes blancs qui déblatèrent toute la journée sur certaines chaînes d'infos en continu. C'est tout simplement de montrer aussi des parcours. Toi, par exemple, tu viens d'un autre pays, tu fais une émission sur la poésie et t'es une personne, t'es pas une étrangère, t'es une personne. Et donc, de montrer que c'est des personnes qui ont des vies, c'est des personnes avec qui on peut avoir des amitiés, c'est des personnes avec qui on peut s'engueuler, c'est des personnes avec qui on peut ne pas être d'accord, c'est des personnes avec qui on peut s'associer, c'est juste des gens, quoi. Et donc, c'est aussi...
Pas des chiffres, surtout.
Oui. Pas des chiffres et pas uniquement des chiffres en tout cas et surtout qu'on fait société en se mélangeant un peu. C'était déjà le slogan de la marche pour l'égalité dans les années 80, c'était la France est comme une mobilette, ça marche en mélange. Je trouve que c'est toujours vrai, mais qu'on a tendance à vouloir nous faire croire le contraire sans preuve ni raison. Voilà. Mais bon, ça c'est c'est une des thématiques de l'émission, mais je peux aussi recevoir des artistes, c'est arrivé, des écrivains, des gens un peu différents. J'ai beaucoup parlé de la psychiatrie aussi. Je suis un petit peu branchée sur contre l'exclusion, contre l'arbitraire de l'enfermement, contre la maltraitance des plus faibles en fait. Quand je parle des maisons de retraite, c'est aussi des gens à qui on ne demande pas leur avis. Et ça, Isabelle, mal, on a un point commun, puisque tu as reçu Francis Carrier, c'était une super émission.
Ouais,
c'était une super émission. Et là, on voit que, bah, voilà, on peut être vieux et quand même être super drôle, super militant. Enfin, incroyable.
Une énergie.
Mais bon, voilà. Donc, c'est
l'idée. Des choses auxquelles il n'y pensait pas. J'ai découvert des choses, je ne pensais pas.
Oui, c'est ça.
Bah oui, oui. Bah, justement, c'est dans les détails que se cache le diable de la persécution, en fait. Et c'est génial, c'était super cette émission.
Ouais. Mais ça, du coup, ça tombe bien, là, tu me fais un...
Tiens, un invité.
C'est la porte de là-haut, ça, je pense. Je ne sais pas pourquoi ça sonne, là. On a encore 5 minutes, laissez-nous tranquille. Pourquoi ça a sonné, je ne sais pas. Non, parce que je voulais dire, justement, que ce qui me paraît super intéressant, c'est que on a aussi la possibilité, là, dans cette radio, de faire des ponts entre nous autres. Mm. Donc là, nous, on l'a fait, parce que tu m'as donné des contacts, par exemple, avec cette personne-là, donc tu avais le contact direct, du coup. Voilà, c'était vraiment intéressant. Toi, Fabiola, tu m'as fait parler d'une émission avec Clara Breteau, là, du coup, je l'ai invité. Enfin, je veux dire, ça, c'est possible. Et puis, alors, encore plus, peut-être ce qu'on pourrait imaginer aussi, nous autres, après. Là, j'ai fait dernièrement une émission avec Patrick Bruento, qui fait Le Monde Rêvé de Georges, qui est une très belle émission. Et on a fait un truc ensemble trop génial, où il m'a invité dans son émission, on se posait la question de « Alors, c'est quoi, c'est comme émission? Est-ce que ça va être Le Monde Rêvé ou est-ce qu'un quoi, quelque part ?» Bref, parce qu'on a des points communs, nous autres, tous, là, tous autant que nous, tout autant que nous sommes. Et je pense qu'il y a des trucs qui pourraient être intéressants aussi, comme ça, d'inventer, avec des ponts entre nous, et que la question, c'est pas simplement « Qu'est-ce que tu fais comme émission ?» mais aussi de quoi ça parle et pourquoi on est là ensemble, voilà. Comment ça se construit. On met quoi comme musique là? On met.
Eugénie, on n'a pas mis, non?
On met Léonore, comment?
Eugénie, on n'a pas mis sa musique.
Tu veux le Soviet suprême, toi?
Allez, comme ça, on dit un petit mot.
Allez, le Soviet suprême.
Voilà. On met Soviet suprême et je vous dirai pourquoi après.
Quick, mais vous allez comprendre. Oui. Vous allez comprendre pourquoi, non? Ils ne vont pas comprendre?
Si.
À la française, on va te chatouiller les chines. C'est le retour de la Marseillaise. C'est le son de la guillotine. Ça te coupe la chic, c'est chic. Ça débite.
Comme il ne reste pas beaucoup de temps, peut-être tu peux par-dessus expliquer le pourquoi du comment.
Oui, je peux expliquer pourquoi j'ai choisi cette chanson. C'est un petit clin d'œil à notre confrère, on va dire, puisqu'il fait une émission ici, Richie Thibault, qui fait une émission de Libre Antenne tous les jeudis soirs, qui était d'ailleurs là jeudi soir. Et en fait, il était là courageusement et plein d'énergie, comme d'habitude, ce jeune homme que j'admire beaucoup, après avoir quand même passé à partir de samedi après-midi dernier 50 heures de garde à vue. Pourquoi? Parce qu'il était au salon de l'agriculture et qu'il s'est adressé à quelques mètres du président de la République française en lui disant dis donc, en substance, hein, dis donc les borgneurs, tu sais qu'en France on coupe la tête des monarques. Et donc pour ça il a été arrêté, il a été en garde à vue, il a failli être déféré, il a pu finalement plus sortir au bout de 50 heures. Ce qui est drôle, c'est que la qualification d'insulte n'a pas été retenue pour éborgneur. Il faisait référence bien sûr à l'attitude de la police française pendant les gilets jaunes, puisqu'il y a eu quand même beaucoup de gens qui ont perdu des yeux grâce au tir de LBD. J'ai dit grâce à cause de tir de LBD. De grâce. Et par contre, il a été pas inculpé encore, mais on a retenu contre lui l'accusation de menace. Et menace, bon, il parlait des monarques. Donc ça veut dire que la personne qui se sent visée se prend pour un monarque. Je trouve ça très, très drôle,
voilà,
en fait. Mais bon, ce serait drôle si on n'enfermait pas les gens à cause de ce genre d'action. Parce que voilà, c'était une action, c'était de l'art quasiment. Hein,
c'était comme de l'art, comme
une performance.
Et puis une liberté d'expression. Et donc je crois que là, on arrive à la fin fin de notre émission, mais vraiment merci beaucoup à toutes les quatre d'avoir joué le jeu. Là.
Bah, merci, à toi, Isabelle.
Et
merci
à une autre
Isabelle.
Fois.
Isabelle, c'est grâce à toi tout ça.
Ouais. Parce que Isabelle, elle fait la technique. C'est toi qui réalises, c'est toi qui.
Voilà. Invitons-nous dans nos émissions, c'est une très bonne idée.
Mais
ouais, absolument.
Et partageons.
Ça donne des ordres. À bientôt.
Carrément.
Ouais, tout à fait. À bientôt.
Et merci les auditeurs.
Ciao.
Merci. Bonne soirée.